versets 11 jusqu'à 25 aujourd'hui. Donc on va lire ce passage. Moi, je vais le lire dans ma version, mais je crois que c'est très proche de celle qui est affichée. Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait et ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà un texte qui n'est peut-être pas évident à premier abord. C'est toujours pareil, ce sont des manières de parler qui nous sont un petit peu lointaines, hein, étrangères. Et ça ne nous paraît pas de prime abord tout à fait évident. Ce qui est écrit là, est-ce que la signification de tout ça. Mais le but d'une prédication ou d'un message, c'est de rendre un peu plus compréhensible ce qui est peut-être un peu compliqué. Alors, ce texte commence par cette expression « bien-aimé ». Hein ? Tout à l'heure, dans la présidence, Antoine a beaucoup parlé de cet aspect de l'amour du côté de Dieu. Nous sommes des bien-aimés de Dieu, bien évidemment. Et ça, c'est fondamental. Mais nous ne sommes pas que des bien-aimés de Dieu. Ou plutôt, cette expression ne concerne pas que cet aspect de l'amour. Nous sommes des bien-aimés. Enfin, Pierre écrit à des gens qu'il considère comme ses bien-aimés. Donc, il écrit à ses frères et sœurs. Et ses frères et sœurs sont ses bien-aimés. Nous sommes ici, entre nous, les bien-aimés. Et c'est un aspect de la chose que nous ne devons pas oublier. Nous sommes entre nous des bien-aimés. C'est ce qu'on appelle l'amour fraternel. Dans le verset 17, Pierre écrit « Aimez vos frères ». Il écrit plusieurs choses, hein, « Honorez tout le monde ». Donc, l'honneur, on le doit à tous, hein, pas à certains, qu'on a sélectionnés, avec qui on a des atomes crochus. Mais c'est la nature humaine. Mais ici, honorer tout le monde. À la fin, il dira honorer le roi, pour ne pas l'oublier lui aussi. Le roi. roi, c'est-à-dire l'autorité supérieure. Hein. Il dit aimez vos frères et craignez Dieu. Aimez vos frères. Pierre dit ça parce que Jésus nous l'a enseigné. Hein. Il a dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et à cette parole, il a ajouté ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc l'amour fraternel, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose d'anodin, sympathique, mais bon, on le fait quand on peut. Non, l'amour fraternel, c'est un commandement du Seigneur et c'est une nécessité dans la relation avec le Seigneur, dans le corps de Christ. Antoine l'a lu tout à l'heure, hein, dans 1 Jean 4, cet avertissement que nous devons prendre au sérieux. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ah oui, c'est sérieux quand même. Hein. Si nous n'aimons pas nos frères et sœurs, eh bien nous n'aimons pas Dieu, nous ne connaissons pas Dieu, parce que Dieu est amour. Car Dieu est amour. Donc, il nous adresse cette injonction, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La parole de Dieu nous contraint donc à aimer. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Et à aimer d'une certaine manière, c'est-à-dire pas d'une manière théorique, mais d'une manière pratique, réelle. Sans praticité, il n'y a pas de réalité. Ça reste des idées, des pensées, peut-être même des sentiments. Mais si ça ne se concrétise pas dans des actes pratiques, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de solidité. Dans Jacques, nous lisons ceci. Ah, il parle de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, c'est-à-dire si elle ne se manifeste pas concrètement, eh bien, elle est morte en elle-même. Une foi morte, ça sert à quoi? Pas à grand-chose. Hein, ça ne nous fait pas avancer et ça ne nous met pas en relation avec le Seigneur. Un amour simplement théorique n'a aucune valeur. Il est superficiel et parfois même hypocrite. Or, Dieu a l'hypocrisie en horreur. Jésus a combattu l'hypocrisie chez les gens religieux de son époque. Donc la Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est fondamental. Ce passage, si tu peux réafficher le premier verset, le verset 11. Bien-aimés, je vous encourage ou je vous exhorte. Donc c'est une exhortation ou un encouragement, c'est-à-dire une invitation pressante à faire quelque chose, parce que cela correspond à ce que Dieu veut, à ce qui est bien pour le peuple de Dieu. Si Pierre va adresser un certain nombre d'exhortations ou d'encouragements à ses lecteurs, à ses auditeurs, ceux à qui il écrit, eh bien c'est parce qu'il veut les faire avancer dans certains domaines. Il veut les encourager à aller de l'avant. Dans quel domaine? Quelles sont les exhortations de ce passage? J'en ai relevé quatre. Et on va les examiner les unes après les autres. Premièrement, Pierre exhorte le peuple de Dieu à vous abstenir des désirs charnels. C'est le verset 11. Deuxièmement, verset 12, il exhorte le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, hein, quand je parle du peu de Dieu, nous, hein, il faut qu'on se sente visé, concerné. Il nous exhorte à avoir une bonne conduite parmi les païens. Il nous exhorte par la suite, et ça, c'est plus, ça occupe pas mal de place dans ce passage, à être soumis à différentes autorités. La soumission, ça ne va pas de soi. On en parlera. Et puis, il nous exhorte finalement à suivre l'exemple du Christ. Alors revenons sur chaque point. Verset 11, il est là, je crois qu'il est affiché. Voilà. Je vous exhorte, bien-aimés, en en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Dans la seconde originale, c'est à vous abstenir des désirs charnels. Donc vous voyez que ce terme de désir charnel a pu être traduit différemment. Hein. Ici, c'est traduit par les désirs de votre nature propre. J'ai trouvé comme traduction les convoitises charnelles, vous abstenir des convoitises charnelles, vous abstenir des passions humaines, des désirs mauvais, des désirs de votre être naturel, des désirs de l'homme livré à lui-même. Et puis on a cette traduction, des désirs de votre nature propre. La chair. Ce terme de chair dans la Bible a un sens particulier. Ça n'a rien à voir avec la matière, hein, mais ça a à voir avec ce que nous sommes dans notre profondeur, dans la profondeur de notre âme. La chair désigne la volonté de l'homme en opposition à celle de Dieu. La volonté de l'homme, notre volonté en opposition à celle de Dieu. Parce que ne faisons pas d'illusions, nous ne sommes pas naturellement portés vers les choses spirituelles et les choses saintes. Les désirs charnels sont donc des choix, des orientations que l'homme prend en fonction de ses propres pensées, sans se soucier de les comparer avec ce que Dieu déclare juste et bon. Et ces désirs charnels font la guerre à l'âme. C'est un terme guerrier, ça, hein ? Ça veut dire quoi ? Ils font la guerre à l'âme, à notre âme. Comment vous le comprenez-vous, si vous avez une compréhension de ce passage ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? En tout cas, quand il y a la guerre, c'est jamais plaisant, hein ? Donc, il y a cette tendance qui s'oppose dans notre être intérieur entre ce que nous voulons et aimons, et ce que Dieu apprécie et déclare être juste et bon. Donc quand il y a guerre, il y a toujours trouble, il y a toujours difficulté, il y a toujours problématique. Alors, MacDonald a écrit ceci, « Les convoitises s'attaquent à l'âme, siège de la vie. » Non, c'est pas MacDonald, c'est un autre auteur que je ne connais pas d'ailleurs. « Les convoitises s'attaquent à l'âme, qui est le siège de la vie. Elles sont ennemies de son repos. Les convoitises charnelles sont ennemies du repos de mon âme. Elles sont ennemies de sa paix, de son salut, et elles travaillent à sa ruine. » Donc, c'est pas, évidemment, c'est la guerre. Alors, MacDonald, lui, a fait ce commentaire. Quand nous lisons cette exhortation à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, nous pensons aussitôt au péché sexuel. Hein, parce qu'on associe souvent la chair à la sexualité. Mais l'expression chair ne se limite pas au péché du corps. En réalité, cette application va beaucoup plus loin. Elle se réfère à tout désir intense, incompatible avec la volonté de Dieu. Par exemple, elle inclut les exagérations dans le domaine de la nourriture ou de la boisson, qu'on appelle les orgies, ou les excès. Il dit même, ça inclut aussi des heures excessives passées au lit. C'est ce qu'on appelle la paresse. Excessive, il a dit, hein. Les grâces matinées ne sont pas interdites. Mais bon, c'est excessif quand on est trop paresseux. Ça inclut aussi la volonté d'amasser des biens matériels et le désir de plaisir mondain. Toutes ces choses combattent. C'est pour ça qu'il y a la guerre. Toutes ces choses combattent sans cesse notre bien-être spirituel. Elles entravent notre communion avec Dieu et ralentissent notre croissance spirituelle. Pierre nous exhorte à nous abstenir des désirs charnels. Pourquoi ? Bon, parce qu'ils font la guerre à l'âme. Mais aussi, il donne une autre explication, parce que nous sommes des étrangers, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre. Ah. C'est-à-dire que nous ne sommes que de passage. On est entré dans cette vie et un jour on va la quitter. Mais on ne va pas la quitter pour aller dans le néant. On va la quitter pour aller, nous, croyants, vers le Seigneur. Ça, c'est une réalité biblique extrêmement attestée. Du coup, nous ne sommes pas figés dans notre situation actuelle, puisque nous ne sommes que de passage. Et nous attendons l'instauration de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera. C'est une parole de Pierre, l'apôtre Pierre. Donc, s'abstenir des désirs charnels, des convoitises, un, parce qu'ils font la guerre à l'âme, deux, parce que ils ne nous apporteront rien de bon dans notre petit passage sur terre et que nous avons d'autres objectifs bien plus supérieurs, qui est celle d'intégrer le royaume de Dieu. Alors, comment discerner ce qui est désir charnel et de ce qui est désir qui ne le serait pas? Moi, je dirais tout simplement que intuitivement, mais pour parler un langage biblique, il faudrait dire par le Saint-Esprit, mais je veux dire quand même intuitivement, nous savons reconnaître ce qui est approuvé de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas votre expérience? Dans nos cœurs, parce que le Saint-Esprit nous parle, et parce que le Saint-Esprit ne parle pas qu'à nous croyants, mais à tout le monde, eh bien nous savons ce que Dieu approuve et ce qu'il n'approuve pas. Mais ce n'est pas suffisant. Notre propre conscience de la chose, nos propres convictions ne sont pas suffisantes. Elles ont besoin d'un ancrage. Et cet ancrage, c'est celui de la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que pour distinguer ce qui est charnel de ce qui ne l'est pas, le chrétien, le croyant, nous, moi, on doit fonder sa conviction sur une parole de l'Écriture plutôt que sur ses propres pensées. Parce que nos pensées sont changeantes, influençables, et donc elles ne sont pas sûres. Mais lorsque nous ancrons notre pensée dans la parole du Seigneur, dans une parole du Seigneur, contenue dans l'Écriture, eh bien, cette parole nous sert de point de repère pour savoir comment se conduire. Un peu plus loin dans sa lettre, Pierre fait allusion de nouveau à cette histoire de changement de conduite. 1 Pierre 4.2, ce n'est pas la peine de l'afficher, je le lis. 1 Pierre 4.2, donc juste un petit peu plus loin. Il dit ceci à ces mêmes lecteurs. Dès maintenant, donc dès aujourd'hui, vous devez vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. Vous devez vivre le reste de votre vie terrestre, hein. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Malheureusement, autour de moi, il y a des gens qui disparaissent subitement, donc personne ne sait le temps qu'il lui reste à vivre. Eh bien, l'apôtre nous dit, vous devez donc vivre le reste de votre vie selon la volonté de Dieu et non selon vos désirs humains. En effet, vous avez passé assez de temps à faire ce qui plaît aux païens. Vous voyez un peu comment il reprend. Il exhorte sans avoir peur de confronter, de choquer. Vous avez passé assez de temps à faire ce qui plaît aux païens. Et il leur dit, vous avez vécu dans les vices, dans le mauvais désir, dans l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. 1 Pierre 4, verset 2. Alors soyons vigilants et puis raisonnés, raisonnables. On a passé une partie de notre temps à faire ce qui déplaît à Dieu. C'est ce qu'il dit l'apôtre. Maintenant, orientez-vous à faire ce qui plaît à Dieu. Choisissez de faire ce qui plaît à Dieu. Et ça, c'est le deuxième point que nous allons aborder maintenant. La deuxième exhortation qui est, elle, au verset 12. Pierre exhorte les croyants à avoir une bonne conduite. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Dans notre traduction, c'est païen, mais je préfère non-croyant. au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir, vos belles œuvres, et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra, le jour où il les visitera. Donc là, j'aime bien le mot non-croyant, c'est clair, hein, c'est pas païen. Païen, ça a parfois une connotation un peu péjorative. Ayez, au milieu des païens, au milieu des non-croyants, ayez une bonne conduite. Les païens, les non-croyants, sont étrangers au peuple de Dieu, mais il n'y a pas de connotation péjorative. Il y a d'un côté les croyants et de l'autre côté les non-croyants. Et il ne faut pas y voir une connotation péjorative. Une bonne conduite, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous étiez là quand Edson a parlé, il nous a parlé de quoi, lui? De pureté. Hein? Alors, il avait dit, oui, le titre, c'était « Vivre pur dans un monde impur ». Une bonne conduite, c'est donc une attitude sainte, une vie conforme à ce que Dieu veut et à ce qu'il est. Dieu a dit « Soyez saints, car je suis saint ». Dieu est saint, séparé du mal, vous aussi, séparez-vous du mal. 1 Pierre 1, versets 14 et 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous appelait est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et ça, ça fait référence à un texte de l'Ancien Testament. La sainteté est de tous les temps. Hein. Elle est aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Dieu nous appelle à la sainteté. C'est-à-dire à adopter une conduite qui, dans tous les domaines de notre vie, rend gloire à Dieu. Même dans les plus ordinaires. Les domaines les plus ordinaires de notre vie, eux aussi, doivent être sanctifiés, saints. Par exemple, il est écrit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc sur des choses aussi basiques que le manger et le boire, en faisant tous les jours, plusieurs fois par jour même, eh bien, faisons-le pour la gloire de Dieu. Dans ce passage, il y a un petit problème, c'est que, en fait, les croyants choisissent une bonne conduite, mais ils sont calomniés. Alors, nous ne devons pas être surpris d'être calomniés. Le Seigneur l'a été. Pourquoi nous ne le saurions pas? Au contraire, il nous a dit, attendez-vous à être critiqués. Jésus a reproché aux hommes leur comportement versatile. J'ai trouvé un verset qui le dit. C'est-à-dire qu'un jour, ils disent blanc et l'autre jour, ils disent noir. Alors, voilà ce qu'on a dit. Voilà ce que Jésus dit à ses contemporains. Et c'est intéressant. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain et il ne buvait pas de vin. Et vous avez dit, il a un démon. Bon. Donc on reproche à Jean-Baptiste son ascétisme. Et le Fils de l'homme est venu, c'est-à-dire moi, Jésus, je suis venu, et je mange et je bois. Et vous dites, c'est un homme qui fait bonne chère, un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. Donc de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, on sera toujours critiqué, voire même calomnié. Alors que faire? Quelle bonne conduite adopter? L'apôtre Pierre nous invite à ne pas nous soucier de l'opinion des hommes, mais à choisir ce qui plaît à Dieu. Les œuvres bonnes. Ici, c'est votre belle manière d'agir. Les œuvres bonnes. Celles que Dieu apprécie. Et à s'attendre à la compassion de Dieu. Dieu est compatissant envers tous. Un jour, il les visitera, ces gens qui nous calomnient. Un jour, il les touchera et leur parlera, comme le jour où il nous a parlé. Attendons-nous à la compassion et à la bonté de Dieu. Troisième exhortation, celle-là va peut-être un peu moins nous plaire, la soumission. À cause du Seigneur, soumettez-vous. Ouf. Quand on est un chrétien depuis quelque temps, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de soumission. Il y en a au niveau de l'autorité civile, les autorités de notre pays, hein, au niveau de la profession, de l'exercice professionnel, et au niveau même du couple, puisqu'il est demandé à la femme d'être soumise à son mari. On ne va pas parler de la femme aujourd'hui, comme ça il n'y aura pas de polémique. Ce sera pour la prochaine étude, je ne sais pas qui va la faire. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ce verset-là. Soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur, je ne sais pas comment c'est écrit, au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Alors, autant dire que la soumission, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps. Et que même aujourd'hui, dans notre société, ben, la soumission, c'est au contraire l'insoumission qui est mise en avant. Hein. Il y a même un parti politique qui s'appelle. Hein, je ne dis pas. Mais bon. Qui montre qu'il faut être insoumis. Voilà. Ce n'est pas le langage biblique, ça. Hein. Le langage biblique, c'est d'être soumis aux autorités qui gouvernent et administrent le pays dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que logiquement, s'ils accomplissent leurs devoirs correctement, eh bien, ils sont chargés de punir ceux qui font le mal et de louer, au contraire, ceux qui font le bien. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de police et de justice. Ça, on le reconnaît à l'État. Et au-delà de l'État, bien sûr, à ceux qui servent l'État. Quand ces tâches sont accomplies correctement, ces tâches de police et de justice, elles participent à l'instauration de la paix dans la société. Et donc ça, c'est important. Le texte dit, verset 12, « Soyez soumis à cause du Seigneur. » C'est fort, ça, si on s'arrête là. « À cause du Seigneur. » Et là, tout à l'heure, on le verra, l'exemple du Seigneur. Mais déjà, il nous est dit que c'est en raison de notre appartenance au Seigneur que nous nous soumettons aux autorités politiques et civiles de notre pays. Est-ce que la soumission nous enlèverait une part de notre liberté ? Alors, il y a un passage qui dit ça à peu près. Conduisez-vous comme des gens libres. Cependant, c'est le verset 16. Conduisez-vous comme des gens libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, nous sommes des gens libres, les croyants. C'est-à-dire que nous avons été libérés. Évidemment, ce n'est pas une liberté civile, politique, c'est une liberté spirituelle que le Seigneur nous a acquis. La liberté de le suivre lui et de choisir le bien plutôt que le mal. De ne plus être dominé par le mal, mais de marcher dans les voies du Seigneur, dans les voies de Dieu. Alors conduisez-vous comme des gens libres, mais n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. Parce qu'il se pourrait que, en se prétendant libre, nous disions ou nous pensions que nous n'avons aucune responsabilité vis-à-vis des autorités qui nous gouvernent et que nous les délaissions, que nous disions par exemple, moi j'appartiens au Seigneur, je fais partie du royaume de Dieu, ma cité elle est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas soumis. Non, ce n'est pas du tout ainsi que la Bible nous parle. Elle nous parle de soumission aux autorités. Et elle nous le présente comme étant à cause du Seigneur. Pierre termine par cette exhortation, on l'a lu tout à l'heure, mais je la relis. Respectez tous les hommes, aimez vos frères, adorez Dieu, respectez l'empereur. Un deuxième aspect de la soumission, c'est celle qui est affirmée à partir du verset 18. Serviteur, elle concerne donc la relation sociale. Serviteur, soumettez-vous à votre maître avec le plus grand respect, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, à ceux qui sont difficiles. Et il continue en disant, en effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Alors le terme qui est employé ici, c'est le mot esclave, serviteur, c'est-à-dire esclave, soumettez-vous à votre maître. Dans la société antique, il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres. Et parmi les esclaves, il y en avait qui étaient convertis. Gloire à Dieu. Il y en avait beaucoup d'ailleurs de convertis. Vous vous rappelez un peu ces paroles de l'apôtre Paul qui dit, mais regardez au milieu de vous et vous verrez un petit peu qui c'est qui fait partie de l'Église du Seigneur. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de gens de la haute ou de la sphère supérieure. Non. Il y avait beaucoup d'esclaves, c'est-à-dire de serviteurs aujourd'hui, dans le corps et l'Église de Christ. Et à ces esclaves chrétiens, devenus chrétiens, Pierre leur dit, soumettez-vous à votre maître. Ne prenez pas encore une fois prétexte de la liberté que Dieu vous a acquise pour vous révolter ou vous détacher de vos devoirs, car les serviteurs ont des devoirs. Là encore, le discours n'est pas facile, puisque ce n'est pas vraiment ce dans le coin on baigne aujourd'hui. Le contexte social a beaucoup évolué, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves comme dans la société antique. Mais ce qui était demandé aux esclaves peut nous inspirer, bien sûr, dans nos relations professionnelles avec nos patrons, employeurs. Qu'est-ce qui est important? J'ai peut-être fait un peu l'impasse tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important dans cette attitude de soumission? C'est qu'en toute situation, le chrétien poursuive le bien. Le bien dans la société, le bien dans son activité sociale. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai fait l'impasse, mais je n'aurais pas dû. Au verset, il dit « Agissez en serviteur de Dieu ». Verset 15, je reviens un petit peu en arrière. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est important. Parfois, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut? Verset 15, ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien. Dans toutes les situations que nous traversons, que nous vivons, ce que Dieu veut, c'est que nous pratiquions le bien. C'est-à-dire ce qu'il apprécie, ce qu'il... comment on appelle ça? Ce qu'il approuve, voilà, cherchez le mot. Ce que Dieu approuve. Ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien au sein du groupe humain dans lequel vous viviez, au sein de la société. Et il le redit encore une fois dans la relation entre le serviteur et son maître. Il le dit, quelle gloire y a-t-il à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. Toujours le bien. Le croyant, le chrétien, nous avons un rôle à jouer dans la société, au sein du groupe humain dans lequel nous vivons, au sein de nos relations professionnelles, au sein de notre famille. C'est toujours de rechercher le bien. Le bien du pays, le bien de la société, le bien de la famille. Un jour, les Juifs se sont retrouvés exilés, loin de chez eux, parce qu'ils avaient désobéi. Ils sont partis pour 70 ans en captivité. Et qu'est-ce que le Seigneur leur a dit comme prescription? C'est dans Jérémie 29, verset 7. Il leur a dit, parce que c'est important de savoir le contexte, on leur disait, mais vous allez bientôt retourner en Israël, ne vous impliquez pas dans la société où vous avez été déporté. C'était les faux prophètes. Vous allez retourner en Israël. Non. Par la bouche de Jérémie, Dieu leur dit, vous allez rester 70 ans en captivité, et maintenant voici ce que vous devez faire. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. L'exhortation, c'est rechercher la paix dans l'endroit où l'on se trouve. Rechercher, faisons le bien là où nous nous trouvons, dans la situation que nous vivons. Et nous en arrivons à la quatrième exhortation, et je pense qu'elle est reliée à la troisième, quand au verset 21, Pierre dit « En effet, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous, et il vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Alors maintenant, Pierre exhorte les croyants, les chrétiens, à suivre l'exemple de Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur rappelle ? Ben que Christ lui aussi a souffert. Et il vous laisse un exemple pour que vous fassiez la même chose. Vous suivez ses traces. À quoi les chrétiens sont-ils appelés ? À endurer la souffrance tout en faisant le bien. C'est un programme qui vous plaît ? À endurer la souffrance à l'exemple de Christ, tout en faisant le bien. C'est pas ce qu'a fait le Seigneur. Comment est-ce que Jésus a-t-il réagi face à l'opposition, face même à la persécution qui s'est abattue sur lui? Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il n'a rien dit. Il s'est laissé faire. Et il a dit à Pilate la vérité, hein, si ce pouvoir ne t'avait pas été donné par mon Père, tu ne pourrais rien faire contre moi. Il s'est laissé faire. Suis-je prêt à me laisser faire? C'est-à-dire à supporter l'injustice. Poursuivre l'exemple de Jésus. À poursuivre le bien, même si cela me cause du mal à moi, du tort. Oui, nous sommes appelés à faire cela. Quand les autorités abusent de leur pouvoir, parce que c'est vrai que les autorités, elles sont là pour faire le bien dans la société, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. C'est loin d'être le cas. Quand les sociétés, quand les autorités abusent de leur pouvoir, quand les patrons sont difficiles, exigeants et pas reconnaissants, eh bien suivre l'exemple de Jésus, c'est s'en remettre à celui qui juge justement. C'est le verset 23, si tu veux bien l'afficher. S'en remettre à celui qui juge justement. Jésus a été maltraité, il a été insulté, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Se reposer sur Dieu et s'attendre à ce que lui, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, fasse justice de ces situations injustes. Car il ne s'agit pas de prétendre le contraire. Hein. Ce sont des situations injustes. Mais comme Jésus les a supportées et les a acceptées, nous aussi, nous les acceptons et nous les supportons pour la gloire de Dieu. Parce que finalement, si Jésus a passé à travers cela, c'était pour servir la gloire de Dieu, servir Dieu. Jésus a dit ceci, et il nous le dit à nous. Voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est, voilà. C'est tout dit, hein. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, oui. Paul dira la même chose dans Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. On n'arrête pas d'en parler. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. mes bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et verset 21, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Voilà notre feuille de route, on appelle ça une feuille de route, toute tracée. Voilà, en tout cas le Seigneur, à la fin de ce passage, c'est le verset 24 maintenant, lui qui a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice, c'est par ses blessures que vous êtes guéris, et la suite. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Voilà, Jésus a enduré le mépris, a enduré l'injustice, il a enduré la maltraitance, il a enduré la crucifixion. Mais cela avait un but, c'était de nous guérir et de nous ramener vers le berger, le grand berger et le protecteur de nos âmes. C'est un bel exemple que cela nous aide à marcher dans notre vie de tous les jours en ayant l'exemple de Jésus devant nos pensées. Merci.
Merci Jean-Claude. Je ne sais pas, si c'est peut-être un peu tôt pour terminer. Alors est-ce qu'on peut reprendre un chant ou... Comment ? Oui. Alors, est-ce que c'est trop tard ? On peut le chanter, oui. Alors je vous laisse le choix. Je pense qu'il est bien.
Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau.
tiens à remercier Véronique.